Bonjour à tous. Ça tombe bien, j'ai des bonnes nouvelles. Je pense que si j'avais pas de bonnes nouvelles à annoncer, j'aurais rien à faire ici. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vraiment partager avec vous une pensée qui m'est venue alors qu'on était dans la louange avec le chant, et notamment sur ce chant « Remplis-moi de ta présence ». Et j'avais cette pensée d'une terre desséchée. Je ne sais pas si vous avez déjà vu quand en été la terre est sèche, qu'il n'y a pas plu depuis de nombreux jours, voire de nombreuses semaines, quand il se met à pleuvoir et quand il y a un gros orage, il y a une croûte en surface et puis on voit même les gouttes d'eau qui rebondissent. Et vraiment, j'avais cette pensée que ce matin, il y a des vies, des cœurs qui sont comme des terres desséchées. Et quand on rentre dans la présence de Dieu, quand la pluie de Dieu commence à tomber, il y a comme une croûte. Il y a une croûte de raisonnement, il y a une croûte de peur, il y a une croûte de se dire qu'est-ce qui va se passer. Et puis, hop, ça rebondit. Et la présence de Dieu n'arrive pas à rentrer dans les vies. Parce que, et Yves l'a dit à un moment, je pense qu'il a vraiment une parole du Seigneur, on a besoin de lâcher prise. On a besoin de lâcher prise. Et je voudrais vraiment ce matin appeler peut-être certains qui sont dans cette situation. Quand la pluie, au début, rebondit, et puis au bout d'un certain temps, la croûte commence à être malléable, et puis l'eau peut rentrer, et alors à ce moment-là, elle fait son travail, et la terre devient fertile, elle porte du fruit, et c'est ce que Dieu veut pour chacune de nos vies, c'est vraiment qu'on soit des terrains fertiles, et que la semence, notamment de sa parole, puisse germer, porter du fruit. Vraiment, je voulais apporter ça avec vous, avant de rentrer dans le sujet que le Seigneur a mis sur mon cœur. Ce matin, je vais vous parler de conquête de territoire. Je ne sais pas si vous êtes fasciné par les grands conquérants de l'histoire. Moi, ce n'est pas trop ma tasse de thé, mais voilà, hein, ça peut. Alors, il y en a, c'était plutôt des explorateurs. Hein. On pense à Christophe Colomb, on pense à un certain nombre qui vraiment partaient pour essayer de découvrir de nouveaux horizons. Et puis, quand on regarde un peu plus près, il y avait quand même beaucoup de conquérants qui avaient plutôt une soif de pouvoir et de domination. Hein, si on cite Alexandre le Grand, Guillaume le Conquérant, Jules César, Hannibal, là on voit que c'était pas juste pour dire tiens, qu'est-ce qu'il y a au bout de l'océan, là j'aimerais bien aller voir. Non, c'était parce qu'il y avait une soif de pouvoir et de domination. Et quand on regarde dans nos temps modernes, eh bien on a aussi nos envahisseurs. Hein, juillet 2014, la Russie envahit une partie de l'Ukraine. 1990, l'Irak envahit le Koweït. 82, la guerre des Malouines entre l'Argentine et les Royaumes-Unis pour défendre un bout d'île dans l'océan. Et puis la Deuxième Guerre mondiale. Et puis on peut remonter 1515. 1515 Marignan, hein. Bataille pour François Ier pour le contrôle du duché de Milan. Et voilà, j'ai pris quelques dates. Mais on pourrait regarder, je pense qu'il ne se passe pas un instant sur la Terre sans qu'il y ait des guerres de territoire. Sans qu'il y ait des guerres de pouvoir, sans qu'on essaye de se battre pour un lopin de terre. Depuis la nuit des temps, les hommes se sont battus pour envahir ou défendre leur territoire face à l'ennemi. Et si on remonte à l'époque du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, il est également très fréquemment question de conquête de territoire. Et particulièrement, une conquête qui est très spécifique, qui est la conquête du pays que Dieu avait promis de donner au peuple d'Israël, le pays de Canaan. Et donc, dans le contexte que vous pourrez relire dans Exode notamment, le peuple était esclave en Égypte sous la domination de Pharaon et il était soumis à de durs labeurs. Et puis Dieu appelle Moïse au chapitre 3 de l'Exode, au travers ce qu'on appelle le buisson ardent. Dieu se révèle dans un buisson qui brûlait mais qui ne se consumait pas. Et Dieu dit à Moïse, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu les cris que lui fait pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. » Pharaon va résister. Moïse ne sait pas trop comment faire. Il dit « Mais je vais aller voir Pharaon, il ne va pas m'écouter. » Et puis, bien évidemment, Pharaon ne voit pas d'un bon œil que sa main-d'œuvre bon marché s'en aille. Et puis, Dieu envoie des plaies, une plaie, deux plaies, trois plaies, jusqu'à la dixième. Le cœur de Pharaon s'était endurci. Et puis, à la dixième plaie, Dieu envoie la mort sur les premiers-nés d'Égypte. Et là, Pharaon capitule, il laisse aller son peuple, et c'est enfin le départ du peuple d'Israël pour la conquête du pays promis. Et je voudrais ce matin faire quelques parallèles entre le peuple d'Israël qui sort du pays d'Égypte pour conquérir un nouveau territoire et notre marche avec Dieu à la conquête des territoires qu'il veut nous donner. Vous remarquerez, si vous connaissez ces récits, que Dieu a promis le pays. Il l'a donné, il l'a promis, mais il va falloir se battre. Ils ne sont pas restés assis en attendant que ça se passe. Il y a un certain nombre de choses qu'il va falloir faire. Et le passage du monde des ténèbres à la lumière, de l'esclavage à la liberté, ne se passe sans difficulté. On le voit, la première chose ici, avec le peuple qui est prisonnier. Quand Dieu décide, au bout d'un peu plus de 400 ans, de dire « Stop, c'en est fini, je vais libérer mon peuple de l'esclavage », eh bien là, Pharaon, il ne se laisse pas faire. Et c'en est pareil pour nos vies quand on est dans l'esclavage du péché. Eh bien, il y a un combat, parce que le malin, il ne lâche pas facilement. Et ça ne se fait pas sans difficulté. Le prince des ténèbres sait qu'il a tout à perdre et il ne desserre pas ses griffes si facilement pour lâcher ses proies. Alors la sortie d'Égypte ne s'est pas faite facilement, mais quand c'est le temps de Dieu, voilà le peuple qui en marche vers Canaan, vers le pays promis. Et apparaît à ce moment-là le premier obstacle. Ils sont à peine sortis d'Égypte qu'ils se retrouvent face à la mer Rouge. D'un côté la mer, et dans le dos l'armée de Pharaon qui est déjà partie à leur poursuite pour remettre la main dessus. Ils n'ont pas perdu de temps. Et le peuple s'adresse à Moïse, mais que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux les servir que mourir au désert. Il y avait déjà une sorte d'amertume, de regret, de dire tout compte fait. Oui, on était dans le péché, on était dans l'esclavage, notre vie était mise à mal, mais tout compte fait, on était peut-être un peu plus en sécurité que là, devant un obstacle insurmontable et puis l'armée qui arrive derrière. Ils n'avaient même pas réalisé, ils avaient été témoins des 10 plaies d'Égypte. Je ne vais pas les redétailler ce matin, mais quand vous regardez ces 10 plaies qui sont des signes miraculeux de Dieu, ils ont vécu ça, ils ont vécu la sortie miraculeuse, et premier obstacle, ouf, tout s'effondre. Et la réponse de Moïse a été simple, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Moïse étend sa main sur la mer qui s'ouvre, le peuple d'Israël traverse à pied sec, et puis il étend à nouveau la main et les eaux se referment sur les chars, sur les cavaliers de toute l'armée de Pharaon qui était entrée derrière eux, et la Bible nous dit, il n'en échappa pas un seul. Et le peuple d'Israël marcha à pied sec au milieu de la mer. Les eaux formaient une muraille à leur droite et à leur gauche. Et je crois que là, on a déjà le signe de la grâce de Dieu qui nous dit, quand on décide de passer de ce monde des ténèbres à une nouvelle vie avec Jésus-Christ, alors l'Éternel combattra pour nous et nous gardons le silence. Laissons. C'est la grâce de Dieu qui intervient et qui nous permet de traverser, qui nous permet de changer de vie, qui nous permet de passer sur l'autre rive pour aller conquérir les territoires que Dieu nous a promis. Alors un des premiers enseignements que nous pouvons tirer ici, c'est que la tentative du diable pour nous faire croire que nous avons fait le mauvais choix, ça c'est clair qu'il y a un combat, et puis une fois que nous avons pris cette décision, une fois que nous nous sommes repentis de notre péché, que nous avons quitté l'esclavage, que nous avons quitté l'Égypte, alors il y a cette petite voix qui vient nous dire « Mais t'es sûr que t'as fait le bon choix ? Regarde, attends. Tu as à peine donné ta vie à Jésus-Christ, tu as à peine fait confiance que déjà, regarde les choses insurmontables devant toi. T'étais quand même plus tranquille avant. Et il va essayer de tout faire pour nous rattraper. Et Pharaon va mettre sa cavalerie à notre suite. Mais ne nous laissons pas intimider. L'Éternel combattra pour nous. Alors après la traversée de la mer Rouge, ils font 3 jours de marche dans le désert. Et oui, il y a du désert. Avant de prendre possession du pays où coule le lait et le miel, là, ces 3 jours, c'est rien. S'ils avaient su à ce moment-là qu'ils allaient tourner 40 ans dans le désert, je pense qu'ils auraient fait demi-tour. Là, ils n'ont fait que 3 jours. Les réserves d'eau sont épuisées, ils ne trouvent pas d'eau. Et puis, ils arrivent enfin à un point d'eau nommé Mara. Malheureusement, ils ne peuvent pas boire car l'eau est amère. Alors Dieu donne ses instructions à Moïse, lui indique un bois qu'il jette dans l'eau et l'eau devient douce et chacun a pu se désaltérer. Et il nous est dit, ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Et il leur a donné 4 préceptes, mais 4 préceptes qui peuvent tout changer. Il leur a dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais tout ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et quatrièmement, si tu observes toutes ses lois, alors je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Je sais que c'est un passage qui est cher à Robert, je ne l'ai pas choisi pour ça, le Seigneur m'a conduit dans cette méditation, mais je crois que le peuple à ce moment-là, imaginons dans quel état était le peuple d'Israël. Je pense qu'il était dans un état physique, moral, psychologique pitoyable. Pitoyable. En raison de sa condition d'esclave en Égypte, au verset 8 d'Exode 3, Dieu parle à Moïse, et je l'ai lu tout à l'heure en introduction, et je pense vraiment il lui parle au sens propre quand il lui dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris que lui fait pousser l'oppresseur. Ils étaient sous un joug, sous le coup des fouets. Je connais ces douleurs. » Et là, Dieu dit « Je suis l'Éternel qui te guérit. » Ils étaient passés d'une condition d'esclave en l'espace de quelques jours. Ils traversent la mer Rouge. Ils sont obligés de marcher 3 jours dans le désert, donc avec tout ce que ça peut entendre, donc des corps usés, fatigués. Et là, une chose merveilleuse, l'Éternel leur dit « Je suis l'Éternel qui te guérit. » Et après nous avoir fait sortir de la servitude du péché, Dieu peut et Dieu veut nous guérir de toutes les conséquences qui ont ravagé les vies. L'esclavage est terrible. Il laisse des traces dans les vies, dans les cœurs. Et Dieu peut et Dieu veut nous en guérir. Il veut restaurer, il veut reconstruire une nouvelle vie. Mais cela ne pourra se faire qu'à 2 conditions. D'abord, c'est d'accepter que Jésus vienne traiter le problème de l'amertume qui nous empêche d'aller plus loin dans notre marche avec Dieu. Ils se sont arrêtés là, il y avait de l'amertume. Et c'était impossible de continuer parce qu'ils étaient dans le désert, il n'y avait plus d'eau. Et c'était pas possible de survivre avec cette eau amère. Donc il fallait absolument se débarrasser de l'amertume. Et puis la deuxième condition, c'est d'accepter de marcher sur le chemin que Dieu a tracé pour nous. Non pas par l'exécution de rites religieux, de pratiques légalistes, de respect des commandements en disant « je vais prendre l'Exode, je vais prendre le Deutéronome, je vais apprendre des préceptes et puis je vais m'attacher à... » Non, nous vivons sous la grâce. Jésus-Christ est venu pour accomplir la loi. Donc nous ne sommes pas là pour marcher avec des pratiques légalistes, mais en cherchant à être agréable à Dieu, en l'aimant de tout notre cœur, de toute notre âme et toute notre force. Et à ce moment-là, Dieu nous propose une feuille de route. C'est ce qu'il a fait avec son peuple. À cet endroit-là, il a dit, voilà, moi je vous propose une feuille de route. Si vous écoutez ma voix, si vous faites ce qui est droit à mes yeux, si vous prêtez l'oreille à mes commandements et si vous observez toutes les lois, alors à ce moment-là, oui, je serai avec vous. À ce moment-là, je vais vous guérir. À ce moment-là, je ne vous frapperai pas d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Si Dieu existait, pourquoi tant de famine, pourquoi tant de guerre, pourquoi? Et moi je dis, Dieu répond par des si ou si. Si Dieu existait, pourquoi tant de misère? Ben moi je dis, Dieu répond par si les hommes écoutaient attentivement ma voix, s'ils faisaient ce qui est droit à mes yeux, s'ils prêtaient un peu plus attention à mes commandements. Et c'est peut-être ce que tu dis dans ta vie ce matin, si Dieu existait, pourquoi il accepte que je passe par ce chemin compliqué, pourquoi il accepte cette situation interminable, pourquoi il accepte que j'ai la mer rouge devant moi en permanence et que je n'arrive pas à franchir et que je n'arrive pas à avancer. Et moi, j'ai envie de te répondre ce matin, Dieu te dit, si tu écoutais attentivement ma voix, si tu faisais un peu plus ce qui est droit à mes yeux, si tu prêtais un peu plus attention à mes commandements, alors oui, il y a une feuille de route. Il faut en accepter les règles, mais à ce moment-là, Dieu prend les choses en main. Et je reviens à ce que je disais, ce que Yves disait tout à l'heure. À ce moment-là, oui, il faut lâcher prise. Il faut accepter que la feuille de route, ce n'est plus la nôtre. C'est celle de Dieu. Mais il y a tellement de choses derrière, il y a tellement de beaux territoires, il y a un pays qui est promis. Je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Alors même si Mara a été une fabuleuse expérience, on constate une chose, c'est qu'ils n'ont pas posé leur valise à Mara, Ils n'y sont pas restés. Mais ils sont allés camper plus loin et il nous est dit, ils sont allés camper plus loin à Élim, où il y avait 12 sources et 70 palmiers. Alors je ne me suis pas attardé sur les palmiers, je pense que ça faisait du bien de trouver de l'ombre. Mais moi j'aimais les 12 sources parce que dans le peuple d'Israël, il y avait 12 tribus. Et je me suis dit, ça m'étonnerait qu'ils soient allés les 12 à la même source. Peut-être, hein. Mais je me dis que le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon et il tient compte des spécificités des vies de chacun. Il y avait 12 tribus, il y avait 12 sources, il y avait une source pour chacun. Alors ils ont pu se désaltérer et Dieu a tenu compte des spécificités de chacun et il a pourvu à chacun en particulier. Et puis Moïse continue à conduire le peuple dans le désert pendant 40 ans parce qu'il est incrédule, il a le courage, il se rebelle, il trouve d'autres dieux. On revient toujours à cette feuille de route, hein, elle est simple, il y a quatre choses dedans. Ben, ils trouvent le moyen, eux, de rajouter des articles parce que l'article 1, l'article 2 jusqu'à l'article 4, ça ne leur convient pas. Donc ils font leur propre règlement et puis ils se construisent un veau d'or et puis ils adorent les statues et puis, donc pendant 40 ans, ils tournent. Et puis Moïse mourut à l'âge de 120 ans. Et Dieu appelle un successeur en l'homme de Josué pour succéder à Moïse. Et je vous propose de lire ce passage dans Josué au chapitre 1er. Josué au chapitre 1er, nous lirons ensemble les versets 1 à 9. D'après les écrits, il semble que Josué était un homme de confiance, était un chef militaire donc qui menait les armées du peuple d'Israël. Et c'est en tout cas l'homme que Dieu a choisi pour succéder à Moïse. Et donc nous lisons ceci au chapitre 1er, verset 1er. « Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, serviteur de Nun, serviteur de Moïse. « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain. » Toi et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. » Gilles le rappelait dans sa prière tout à l'heure, c'est par la grâce de Dieu que nous pouvons franchir ce Jourdain pour entrer dans le pays d'Israël, dans le pays promis, dans les promesses que Dieu a pour nous. « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi et prends courage ? Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Lève-toi pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Dans notre vie spirituelle, Dieu nous donne possession de certains territoires quand nous avançons dans notre marche avec lui. Mais ces territoires sont bien délimités. Moi, j'ai été surpris de voir la précision. Il ne leur dit pas, quand vous aurez traversé le Jourdain, allez-y, installez-vous où vous voudrez. Il fixe des frontières et des limites qui sera leur territoire. Il va falloir le conquérir et après, il va falloir aussi le garder. Et Dieu nous donne possession de territoires spirituels. Mais nous aurons aussi à les conquérir. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous marchons avec Dieu que nous pouvons faire tout et n'importe quoi. Il y a des limites, il y a des territoires, il y a des zones où nous devons être et d'autres où nous ne devons pas être. Et c'est Dieu qui fixe les frontières à ne pas dépasser. Alors après avoir passé le Jourdain, là encore de manière miraculeuse par l'action de Dieu, Il va s'en suivre une succession de batailles contre l'ennemi et le peuple d'Israël va conquérir, ville après ville, le territoire promis par Dieu. Et là, c'est ce que je disais, le pays était promis. Donc ils auraient pu dire, on traverse le Jourdain, on attend, l'ennemi va partir et quand ils seront partis, ben, on va prendre possession. C'est parfois des paradoxes qu'on a dans nos vies et qu'on a peut-être parfois du mal à comprendre. C'est de dire, je ne comprends pas, je bénéficie de la grâce de Dieu, je suis sauvé par grâce, je n'ai rien à faire que d'accepter que Jésus-Christ est mort pour moi à la croix. Alors je passe d'une situation d'esclave, je passe dans une situation d'affranchi, je suis libre. Mais si je veux avancer dans ma vie chrétienne et dans ma foi, je vais alors à ce moment-là devoir prendre possession du pays. Dieu nous les a donnés. Dieu nous les a donnés, mais il faut qu'on aille en prendre possession. Une des plus célèbres conquêtes a été la ville de Jéricho, qu'on connaît bien, même je pense, dans le milieu laïque, la prise de Jéricho. Alors certains, peut-être en sourient, attendez, c'est quoi ces hommes, ces femmes qui tournent, ces trompettes et puis ces murailles qui tombent. Non, moi je crois que Dieu a agi miraculeusement dans cette situation. Et puis, je ne vais pas détailler toutes les villes qui ont été prises, mais ville après ville, territoire après territoire, le peuple est avancé et Dieu a permis qu'il devienne vraiment conquérant. Et au chapitre 14 de Josué, une fois que la conquête du pays a été terminée, alors il y a eu le partage des territoires entre les différentes tribus d'Israël. Nous sommes tous au bénéfice de la même grâce et pourtant nous devons aussi comprendre et accepter que nous ne sommes pas tous amenés à vivre les mêmes choses avec Dieu. Chaque tribu a eu un territoire différent. Il y a eu un partage qui s'est fait. Ils sont tous allés ensemble conquérir. Et chaque tribu a eu une part en héritage. Et moi, je me réjouis de la diversité des parcours de vie, de l'avancement des vies dans la marche avec Dieu. Et ce que j'ai reçu, tu ne le recevras peut-être pas. Et ce que mon frère a reçu, je ne le recevrai peut-être pas. Donc, notre marche avec Dieu ne doit pas être fixée sur un objectif de dire « Oh, moi, celui-là, j'aimerais bien, ça me plaît bien ce qu'il fait, ça me plaît bien comment il est, ça me plaît bien comment il a... Oh, il a une foi vraiment... » Non. Prenons possession du pays et acceptons la part d'héritage et le territoire que Dieu nous donne. Et je pense qu'il est important que, dans nos vies, on puisse vraiment, en permanence, être à l'écoute de Dieu et accepter que ce territoire qu'il nous donne, il est bon pour nous. C'est le pays où coule le lait et le miel. Mais ce n'est pas forcément le même que mon frère, que ma sœur. Amen. Alors, il y a des territoires dans nos vies dont nous devons prendre ou peut-être reprendre possession parce que parfois, on les a pris et puis on n'a pas fait attention de mettre des frontières. Et puis, tout doucement, les frontières sont hermétiques et puis l'ennemi, il essaye de reprendre possession. Et dans nos vies, il y a des territoires comme ça où nous ne sommes pas encore rentrés dans ce territoire, dans cette terre promise, et nous devons en prendre possession ou en reprendre possession, et ensuite en assurer la protection pour que l'ennemi n'y revienne pas. Et on pourrait en lister beaucoup, j'en ai retenu quelques-uns. Nos sentiments. Paul écrivait aux Philippiens, chapitre 2, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Et nous avons en Jésus l'exemple parfait. Et au niveau des sentiments, il était Dieu, mais quand il s'est fait homme, il n'a pas regardé à sa condition divine, il s'est abaissé. Et les sentiments qui étaient en lui doivent être les sentiments que nous devons rechercher. Ça doit être des territoires que nous devons aller conquérir. Non pas nous complaire dans une situation qui, tout compte fait, j'en ai pris un petit morceau, j'ai récupéré quelques mètres carrés de mon territoire. Non, le territoire, il est beaucoup plus vaste que ça. Et nous devons aller conquérir de nouveaux territoires dans nos sentiments. Est-ce que l'orgueil fait partie encore de notre vie? Vouloir être le premier, vouloir être vu, vouloir être mis en avant? Est-ce que l'esprit de vengeance, de temps en temps, ne revient pas un petit peu quand on est chahuté, peut-être même de manière complètement injuste parce qu'on ne le mérite pas? Est-ce que la rancune n'est pas encore parfois un petit peu dans nos vies? Et là, il y a des territoires que nous devons reconquérir au niveau de nos sentiments. Les demi-vérités, Oh, ce n'est pas un mensonge, c'est une demi-vérité. Ma maman, étant jeune, a été instruite auprès des sœurs. Et elle faisait aussi du secrétariat, et quand certaines personnes venaient pour demander la mère supérieure, alors quand la mère avait donné des consignes pour ne pas être dérangée, c'était toujours embêté, parce que, comment dire, elle ne veut pas vous recevoir. Alors elle mettait son doigt comme ça, elle disait, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Vous comprenez? Pour ne pas mentir. Elle mettait son doigt dans la manche, elle disait, non, non, elle n'est pas là. C'est pas un mensonge. Est-ce réellement une vérité? Je vous laisse méditer sur le sujet. Une de mes vérités, moi, je dirais que tout ce qui n'est pas une vérité entière est un mensonge, soyons clairs. Et parfois, dans nos vies, eh bien, quand on se retrouve un petit peu embêté, quand la situation ne nous arrange pas, quand ça remet en cause beaucoup de choses, eh bien, on va peut-être essayer. Je crois qu'il y a des territoires que nous devons reconquérir et que nos sentiments puissent être vraiment les sentiments qui étaient en Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Notre caractère rebelle. Oh, je ne parle pas pour vous. On ne supporte pas d'être mis en cause. On a des difficultés avec l'autorité, que ce soit l'autorité de tout genre, avec les parents, que ce soit avec le chef au boulot, que ce soit à l'église. À l'église, pourquoi pas, mais non, ça ne nous concerne pas ici. Des territoires où on n'a pas encore fini la conquête. Et je crois que ce sont des terrains sur lesquels nous devons chasser l'ennemi et prendre possession du pays en disant non, ça je n'en veux plus dans ma vie. Je n'en veux plus dans ma vie. Il y a un territoire peut-être à reconquérir ou à conquérir la piété personnelle. Où en sommes-nous dans la lecture de la Bible? Où en sommes-nous dans la prière personnelle? Dans la recherche de la volonté de Dieu pour notre vie? Je crois que là aussi, au fil des années, on peut garder une vie spirituelle avec Christ, oui, on est toujours croyant, on a toujours la foi, on vient toujours à l'église, mais qu'en est-il de notre relation personnelle, de notre piété avec Dieu? Est-ce un territoire à reconquérir ce matin dans ta vie, dans ma vie? Le territoire de la foi. Oh ben vous allez me dire, attendez, moi je suis chrétien, j'ai foi en Dieu. On est parfois très bon dans la théorie. On est bon dans les connaissances intellectuelles. On a la Bible, on a les promesses, on les connaît, on les sait. Et puis on a tellement si facile à vaciller à la moindre alerte. Moi, je connais un homme de Dieu, c'est pas ici, donc ne cherchez pas, c'est pas dans l'équipe pastorale ici. Mais qui a une prédication, un homme de foi, qui a un message vraiment conforme à la parole, qui proclame l'Évangile. Mais quand il lui arrive le moindre bobo, est-ce que c'est un cancer? Est-ce que c'est, oh, j'ai mal? Est-ce que c'est paradoxal? On peut le proclamer, on peut le croire, on peut le savoir. Et puis quand les flots commencent à s'agiter un petit peu, quand la barque commence un peu à... que le vent souffle, que la tempête commence à souffler, alors là, Seigneur, Seigneur, au secours, au secours. Je pense que le territoire de la foi est certainement un territoire que nous devons conquérir. Et je le dis pour ma vie, quand je lis les évangiles, quand je lis la première église, quand je regarde ce qui se passait et ce que Dieu nous a promis, alors j'ai dit oui, moi j'ai besoin de reconquérir ce territoire. J'ai besoin. Quelques mètres carrés ne me suffisent pas, je veux aller beaucoup plus loin que ça. Notre engagement avec Dieu, notre zèle pour lui. Quand l'apôtre Jean, sur l'île de Patmos, a eu la révélation et vraiment cette vision, Dieu lui a parlé et il nous a dit à l'église d'Éphèse, il est dit ceci, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Où en est notre engagement avec Dieu? Où en est notre zèle pour lui? Le territoire de notre service pour Dieu. Par conséquent, pour l'église. Vous savez, on entend dans le jargon évangélique ou ailleurs, on entend souvent parler des serviteurs de Dieu. Lui, c'est un serviteur de Dieu. En général, on parle des responsables ou des pasteurs en disant « c'est un serviteur de Dieu ». Mais nous devons d'abord tous être serviteurs de Dieu. Mais je ne peux pas être serviteur de Dieu si je ne sers pas mes frères et sœurs. Je ne vois pas comment, concrètement, j'aimerais que quelqu'un un jour m'explique comment je peux servir Dieu sans servir l'Église, sans servir mes frères et sœurs. Si vous avez la solution, dites-le-moi. Je bute sur ça. Je bute sur ça. Parce que je ne peux pas être serviteur de Dieu si je ne suis pas serviteur des autres. Et c'est peut-être là aussi des territoires à reconquérir, parce qu'on peut s'investir dans beaucoup de choses, là encore, certainement légitimes, et je ne suis pas là pour dire tout notre temps doit être consacré à l'Église, parce qu'il faut garder dans les vies un équilibre. Il y a la famille, il y a les conjoints, il y a les enfants, nous avons un travail dans lequel nous devons être sérieux et faire notre part. Mais dans le temps qui reste, est-ce que je suis plus investi dans l'association qui vient en aide Est-ce que je suis plus investi dans mon club sportif? Est-ce que je suis plus investi dans l'amicale des voisins? Et la liste, vous pouvez vous-même la remplir. Et puis vous faites d'un côté, dans une colonne, une liste, et puis dans l'autre, vous mettez « service pour Dieu ». Et puis vous remplissez la liste. Et puis vous verrez un petit peu comment ça s'équilibre. Je pense qu'il y a des territoires que nous pouvons aussi là reconquérir. Et puis, il y a dans la marge des places fortifiées à assiéger. Je parlais de Jéricho avec ses murailles. Et là, humainement, cette ville, elle était imprenable. Elle était imprenable. Et dans nos vies, dans la marche, on est confronté à des territoires qui, humainement, sont imprenables. Des places fortifiées, des murailles à faire tomber. Je pense à l'indignité. Certains, avec une vie qui a été vouée au péché, malgré une conversion authentique, se sentent parfois encore indignes, en disant « tous péchés », et puis des pensées qui reviennent, « et puis je ne mérite pas », « et puis je ne mérite pas », « et puis je ne suis pas assez bien ». Et puis ce sont comme des murailles qui se sont élevées. Ces murailles-là, le Seigneur veut les faire tomber. Des murailles de la rancune, de l'absence de pardon authentique, parfois ça vient d'une toute petite chose. Et puis on ne l'a pas réglée. Et puis la muraille, elle continue comme ça à se construire, et puis on n'arrive pas à avancer. On n'arrive plus. La muraille de l'incrédulité. La muraille des faux-semblants. On donne une image qui ne reflète pas l'état intérieur. C'est tellement facile. Je peux mettre un beau costume, je peux mettre une cravate, je peux donner une apparence. Combien de personnes, quand on discute, que ce soit parmi nos frères et sœurs ou que ce soit dans nos entourages respectifs. Des personnes qu'on voit comme ça, tout va bien, même tout le temps en train de rigoler. Et puis quand on discute, l'intérieur, il y a un mal qui ronge, il y a une tristesse, il y a des ravages. Les vies sont ravagées. Et ce sont des murailles, parce qu'on veut garder l'apparence. Alors on ne capitule pas. Ce matin, le Seigneur veut faire tomber les murailles des faux-semblants dans les vies. Et puis peut-être que certains se rendent compte qu'ils n'ont pas réellement quitté l'Égypte. Parce qu'il y a la marche, mais il y a aussi ceux qui sont encore prisonniers en Égypte, prisonniers du péché. Ils ont compris que Jésus est là, le libérateur, il veut les faire sortir, mais il y a la peur de l'inconnu. Il y a la peur du désert. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne vais plus rien maîtriser. J'ai peur. Alors on est toujours esclave du péché, parce que pendant ce temps-là, Dieu ne peut pas nous faire aller plus loin, il ne peut pas nous faire avancer. Il y en a qui sont restés campés à Mara, ils sont sortis de l'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge, ils ont vu la main de Dieu agir dans leur vie quand ils ont donné leur vie au Seigneur. Et puis là, au lieu d'aller plus loin, au lieu d'aller camper à Lim et puis d'avancer et de prendre possession du pays, eh bien ils sont restés là parce que l'amertume n'a pas été traitée. Parce qu'ils n'acceptent pas les préceptes de la feuille de route. Que des interdits. Alors moi, je veux bien être libéré de l'esclavage, parce que j'en ai par-dessus la tête. Mais par contre, la feuille de route, moi, elle ne me convient pas. Donc on sort de l'Égypte, et après on dit, je vais faire un peu ce que j'ai envie de faire. Maintenant, je ne suis plus esclave, ni Dieu ni maître, et je m'en vais. Et puis on tourne pendant 40 ans dans le désert. On tourne, et la situation devient plus grave que ce qu'elle était avant. C'est pas ça la vraie liberté. Oh, faut pas. Et puis si tu fais ci, puis si tu fais ça. Et leur cœur est partagé entre la nourriture de l'Égypte, parce que tout compte fait, on finit par se dire, ben, quand j'étais dans le monde, quand j'étais, je vivais ma vie, ben, voilà, je m'éclatais, même s'il y avait l'amertume au fond du cœur. Mais je faisais ce que je voulais. Alors on est partagé entre ça. Et puis entre dire, oui, je sais qu'avec Dieu, j'ai un pays promis, où coule le miel, où il y a des bonnes choses. Mais je ne sais pas trop comment y aller, parce que la feuille de route, moi, si tu fais ci, si tu fais ça, si... Non, la grâce de Dieu est là pour nous accompagner. La grâce de Dieu est là pour nous accompagner. Alors oui, pas de n'importe quelle manière, mais par sa force, on peut prendre possession de ces nouveaux territoires. Alors il est possible ce matin de regagner du terrain. Il est possible de conquérir de nouveaux territoires. Une des premières conditions, il y en a certainement plus, mais une des premières me paraît essentielle, c'est d'être honnête sur la réalité de notre situation. On peut se voiler la face, on peut faire l'autruche, on peut essayer de se donner des excuses, même si elles nous effrayent, soyons honnêtes envers nous-mêmes, soyons honnêtes sur notre situation, même si on ne sait pas comment s'en sortir, même si la muraille est insurmontable, même si la mer rouge est là et que l'armée est derrière, reconnaissons, soyons honnêtes envers nous, soyons honnêtes. Ayons l'humilité de dire oui, oui, oui. Moi, ma situation, elle n'est pas celle qu'elle devrait être. La deuxième condition, c'est de reconnaître que nous n'y arriverons pas par nos propres forces, mais seulement avec l'aide de Dieu et en acceptant de nous soumettre à lui. Dieu dit à Josué dans le passage qu'on a lu tout à l'heure, « L'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Alors attention, il y a des conditions. Moi, dans les milieux évangéliques, on a un petit peu, je ne sais pas si vous êtes comme ça, vous, mais on a un petit peu nos boîtes à promesses. Vous connaissez la boîte à promesses ? Hein, quand les choses ne vont pas trop bien, on va piocher dans les promesses de Dieu. Ah tiens, celle-là, elle est pas mal. Ah tiens, celle-là, elle est pas mal. Et même parfois, on les revendique, on prie, Seigneur, tu as promis, tu nous as dit. Oui, l'Éternel, Dieu a dit à Josué, L'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Mais il ne faut pas oublier de lire ce qui est avant. Dans les promesses, bien souvent, on prend la partie qui nous intéresse, et j'en ai noté quelques-unes, mais qui sont assez connues. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Waouh, merveilleux. Moi, je vais résister au diable, il va fuir, tout va bien se passer. Dans Jacques, chapitre 4, verset 7. Si on remonte un petit peu, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Alors oui, oui, résistez au diable, il fuira loin de vous, mais Dieu résiste aux orgueilleux. Si vous y allez tout seul, vous en disant, moi je vais résister au diable, vous allez voir comment ça va se passer. Dieu résiste aux orgueilleux, soumettez-vous à Dieu. Alors oui, il y a de belles promesses. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Magnifique. Je suis chrétien, je vais être toujours à la tête et jamais à la queue. Deutéronome, chapitre 28, verset 13. Si on remonte au début du chapitre, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Et dans la liste, oui, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Mais il y a une feuille de route à respecter. Yves a lu ce matin ce passage du psaume 84. L'Éternel est un soleil et un bouclier, il ne refuse aucun bien. Merveilleux, moi j'en veux de ce Dieu-là. Il ne refuse aucun bien. À qui ? À qui ? À ceux qui marchent dans l'intégrité. Amen. Alors, oui, merci pour les promesses de Dieu. Merci pour les promesses de Dieu. N'oublions pas qu'elles ne sont pas conditionnées aux efforts que nous allons faire. Je crois qu'il est important, quand je cite ces passages, elles ne sont pas conditionnées aux efforts que je vais faire. Une fois de plus, ce n'est pas parce que moi je vais résister au diable que... Non, elles sont conditionnées à l'état d'esprit dans lequel je vais être. Oui, Seigneur, tu sais que je suis bien imparfait. que tes ordonnances, j'ai du mal à les respecter. Tu sais que mon cœur n'est pas toujours intègre. Tu sais, Seigneur, mais je m'approche de toi, je compte sur ta grâce. Et par ta grâce, je sais que je peux avancer parce que tu me soutiens. Alors oui, à ce moment-là, on peut se saisir de ces promesses. L'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et puis dans Josué, chapitre 1, versets 7 à 9, je vais vous le lire si vous souhaitez. On l'a lu déjà tout à l'heure. Fortifie-toi seulement et bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. On revient à la feuille de route de Marat. Quelles que soient les étapes, quelles que soient les villes qu'on va essayer de conquérir, si on n'applique pas la feuille de route de Marat, on va revenir au point de départ. Et ça va être la défaite. Et dans les villes à conquérir, on a l'exemple de Haï, avec le péché d'Acan, qui a désobéi. Et reprenez toute cette histoire du peuple d'Israël, on revient à Marat, à la feuille de route du Seigneur. Alors est-ce que tu acceptes, est-ce que j'accepte de marcher dans les voies de Dieu, de faire sa volonté et de l'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force? Alors à ce moment-là, oui, l'Éternel sera avec toi, sera avec moi dans tout ce que nous entreprendrons. Et puis il y a une autre condition pour de nouveaux territoires, c'est aussi de réaliser que nous avons besoin de nos frères et sœurs pour y arriver. Et je vais lire dans Josué, toujours au chapitre 1er, les versets 12 à 15. « Josué dit aux Rubénites, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé, « Rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, quand il a dit « L'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. Vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moïse de ce côté-ci du Jourdain. Mais vous tous, hommes vaillants, vous passerez en armes devant vos frères et vous les aiderez jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous et qu'ils soient aussi en possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, leur donne. » Je le disais tout à l'heure, la conquête du pays de Canaan ne s'est pas faite en ordre dispersé. Chaque tribu n'est pas allée conquérir son propre territoire. Et les questions ici, des deux tribus, les Rubénites et les Gadites, ainsi que la demi-tribu de Manassé, à qui Moïse avait donné possession de leur territoire avant de passer le Jourdain. Donc eux, ils étaient arrivés sur leur terre, ils pouvaient s'installer, prendre possession du pays. Et le reste des tribus devait passer le Jourdain pour aller conquérir le reste du pays. Et pourtant, Josué va demander à ses hommes vaillants d'accompagner les autres tribus pour conquérir tout le reste du pays promis par Dieu. Et ici, je ne peux pas m'empêcher de penser à l'accompagnement spirituel par les plus anciens dans la foi de ceux qui sont déjà établis, hommes, femmes vaillants, qui sont prêts à accompagner les autres, jusqu'à ce qu'ils prennent eux aussi possession de leur terre promise. Dans la marge, je le disais, on n'a pas en héritage tous les mêmes territoires. Et Dieu a permis que certains soient plus âgés dans la foi, que certains soient déjà en possession de certains territoires, et ils sont là aussi pour accompagner les autres. Et c'est vraiment ce que Josué a demandé ici à ces deux tribus et à la demi-tribu de Manassé. C'est oui, vous êtes arrivés, vous. Vous avez une stature, vous avez un territoire, vous pouvez vous installer, mais vous allez aussi accompagner les autres, jusqu'à ce qu'ils aient pris possession aussi de leur terre. Et je crois qu'ici, c'est un point important dans la vie de l'Église. On l'a déjà dit, mais vraiment, ça m'a frappé en lisant ce passage-là. C'est que on peut avancer dans sa vie chrétienne en disant « oui, je reconnais que j'ai des choses, j'ai des progrès à faire ». On peut dire « de toute façon, par la grâce de Dieu, je vais y arriver ». Mais on voit ici aussi que pour conquérir certains territoires, eh bien, il faut nécessairement l'appui d'un frère, d'une sœur, d'un aîné dans la foi, d'un aîné dans le Seigneur. Le Seigneur a permis qu'il y ait dans l'Église des hommes, des femmes établis, affermis. Et je crois qu'il est nécessaire quelles que soient d'ailleurs nos années de marche avec le Seigneur, c'est de pouvoir dire, mon frère, ma sœur, j'aimerais qu'on parle ensemble, j'aimerais te confier, moi j'ai un territoire dans ma vie, j'arrive pas, l'ennemi a repris de la place. J'ai un territoire que je sais que le Seigneur m'appelle à aller plus loin, mais je n'arrive pas à y aller. Alors c'est important de pouvoir faire confiance à ceux qui sont déjà établis, qui ont déjà pris possession de leur terre, mais qui sont là pour vous accompagner jusqu'à ce que vous ayez pris possession de votre territoire. Je pense particulièrement, pas que, aux jeunes. Je pense particulièrement aux jeunes. Combien de fois j'ai entendu des personnes qui disaient si j'avais eu mon père, si j'avais eu quelqu'un qui ait pu me conseiller dans des choix, dans des orientations, dans des moments où je ne savais plus, j'étais perdu. Je pense qu'il est nécessaire que des jeunes puissent se confier à des plus aînés. Non pas à se confesser, à se confier pour dire voilà, moi dans ma vie j'ai ça, j'ai un territoire à conquérir. J'ai un problème parce que j'ai des sentiments qui ont été tronqués par mon ancienne vie. J'ai des sentiments qui ne sont pas sains. J'ai telle situation, j'ai tel choix, j'ai telle décision, j'ai telle question dans ma vie. Alors moi, je vous engage vivement à vous rapprocher d'un frère, d'une sœur plus aîné dans la foi qui marche avec le Seigneur et qui va pouvoir prier avec vous, qui va pouvoir vous accompagner, qui va pouvoir vous dire... Moi, je suis passé par là aussi. Et vraiment, vous amenez plus loin. Vous amenez plus loin. Ne perdez pas de temps. Ne perdons pas de temps. Ne perdons pas de temps. Il est tellement facile de camper sur nos positions, de dire, de toute façon, j'y arriverai bien, et puis je compte sur la grâce de Dieu. Ben oui, peut-être que vous y arriverez, vous y mettrez le temps, mais peut-être que vous allez souvent tourner en rond. Parce que le Seigneur veut aussi... Et s'il nous a mis les uns à côté des autres au sein de l'Église, c'est aussi pour ça. C'est qu'on puisse prier ensemble les uns pour les autres, qu'on puisse se porter les uns pour les autres. Alors ce matin, si tu as de nouveaux territoires à conquérir, si tu as des territoires sur lesquels les frontières ne sont plus très, très claires, hein, on ne sait plus trop la limite entre mon pays où je dois être et puis le pays où l'ennemi réside, alors il est temps de revenir à l'Éternel. Il est temps de faire tomber les murailles. Amen.